armé pour le deuil que contre la peur, donc aussi plus doué pour la pensée, hélas, que pour la vie, moins démuni devant le passé qui ne change plus et sa façon à lui d'être éternel, que devant l'avenir toujours imprévisible et dès lors inquiétant. Pas d'espoir sans crainte. De là cette tentation d'anticiper perpétuellement la blessure ou la déception pour en apprivoiser l'idée, pour la prendre de vitesse, pour m'y installer à la fois d'avance et rétrospectivement, pour la voir imaginairement derrière moi, ce que j'appelais parfois la démarche du futur antérieur. La mélancolie m'est plus supportable que l'angoisse, et il se peut que celle-là ne me soit qu'une protection, d'ailleurs peu efficace, contre celle-ci. De la philosophie comme deuil anticipé. C'est ce qu'écrit notre invité André Comte-Sponville, est à nos côtés. Il s'est beaucoup intéressé au comportement des animaux, c'est l'un des pères de l'éthologie. Dans notre grand dictionnaire, la pensée du biologiste Jacob von Uxkull, ce sera avec la philosophe Gaëlle Jean-Marc. Soyez les bienvenus dans Les Dieux dans tous. 152, vous êtes philosophe et auteur de nombreux livres, comme par exemple le traité du désespoir et de la béatitude, le petit traité des grandes vertus ou encore votre dictionnaire philosophique. Vous revoici cette fois-ci avec la clé des chants et autres impromptus. Pourquoi aviez-vous peur du noir, enfant André Comte-Sponville ?
Allez savoir, je crois que c'est une peur répandue chez les enfants. Mais on a peur du noir parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Quand il fait jour, un éventuel danger, on peut le percevoir à l'avance. Quand il fait noir, quelque danger que ce soit est par définition imperceptible. Et donc on a peur, me semble-t-il. Et je pense que la peur du noir n'est pas le propre seulement des enfants. Je crois que les humains sont plutôt faits pour vivre dans le grand jour que dans la nuit.
Est-ce qu'il vous arrive encore de vous réveiller le matin un brin angoissé ?
Le matin, c'est pas mon affect principal. Je peux me réveiller fatigué, je peux me réveiller mélancolique, mais pas spécialement angoissé. D'ailleurs, je suis moins angoissé aujourd'hui que je ne l'ai été.
Et puis, comment ça se fait ?
En père de famille anxieux que je suis, au fond, je m'angoisse surtout pour mes enfants, ce qui est normal, c'est l'avantage et de la paternité et de la vieillesse. Et il se trouve, je touche du bois, si j'ose dire, que mes trois enfants, pour l'instant, vont plutôt bien, n'ont pas de gros soucis, pas de gros problèmes. Et donc, je n'ai pas de raison particulière d'être angoissé.
Je lisais en ouverture un extrait du dernier texte de votre nouveau livre. Il est intitulé « Maman, votre mère qui est décédée en mars 1986 ». Elle s'est suicidée, elle avait 64 ans, vous en aviez 34. Tout était faux chez elle, sauf le malheur. C'est ce que vous avez dit à votre frère quand il vous a annoncé la triste nouvelle. Votre mère qui s'inventait joyeuse, c'est ça André Comte-Sponville ?
C'était une femme malheureuse, c'était une femme dépressive. Alors c'est pas la même chose, la dépression et le malheur, mais elle avait les deux, soit simultanément, soit successivement, selon les cas. Quand j'étais petit, quand nous étions petits, ma sœur, mon frère et moi, elle avait fait deux tentatives de suicide, et donc c'est vrai que toute mon enfance s'est déroulée, si j'ose dire, à l'ombre du malheur de ma mère. Et donc de mon propre malheur, puisqu'un petit garçon ne peut pas être heureux quand sa mère est malheureuse, d'où la mélancolie, peut-être, comme trait de caractère, et d'où l'angoisse, parce que non seulement j'étais malheureux de son malheur, mais j'avais perpétuellement peur qu'elle ne se suicide. Elle avait fait deux tentatives qui avaient échoué, et toute mon enfance, mon adolescence, j'ai toujours craint qu'elle ne fasse une autre tentative qui pourrait cette fois-là réussir.
Et vous saviez qu'elle mentait.
Voilà, pour en revenir à votre question, toute dépressive et malheureuse qu'elle fût, il lui arrivait bien sûr d'avoir des moments de gaieté, de bonne humeur, de bonheur au moins apparent, sauf que les moments où elle était gaie, ça sonnait faux. On avait le sentiment que c'était du théâtre, du cinéma. Alors qu'à l'inverse, les moments où elle était malheureuse, les moments par exemple où elle pleurait dans mes bras, ça sonnait tragiquement vrai. Et donc, j'en avais tiré la conclusion dans ma petite tête d'enfant que la joie était du côté de l'illusion, du semblant, et qu'inversement, la vérité était du côté de la tristesse.
Et ça, c'est faux.
Ça, c'est faux, mais c'est ce que les philosophes m'ont aidé à comprendre, mais un peu plus tard, au sortir de l'adolescence, parce qu'en effet, les philosophes m'ont appris le contraire, à savoir que c'est l'illusion qui rend malheureux, et que c'est la vérité qui ne rend pas toujours ni forcément joyeux, mais qui au moins permet d'aller vers la joie, permet de prendre sa vie en main, si vous voulez. Et c'est pourquoi il m'arrive de dire que la philosophie a été ma bonne mère. Non pas que ma mère fut mauvaise, elle était très aimante, mais voilà, elle m'engageait au fond dans une fausse voie, qui est la voie de l'apparence, du mensonge, de l'histrionisme, comme disent maintenant les psychiatres, qui n'osent plus parler d'hystérie. Mais c'est bien, me semble-t-il, le mot qui convient. Et donc cette femme que j'aimais passionnément, comme normalement un enfant aime sa mère, mais qui était malheureuse, ben ça veut dire que voilà, j'ai grandi, j'ai appris à vivre et à aimer dans le malheur de ma mère, et tout mon travail philosophique a été d'essayer de m'arracher finalement à ce malheur-là.
Aimer dans le malheur de sa mère, c'est apprendre à aimer aussi dans l'inquiétude.
Oui, c'est ça. Et c'est pour ça
a eu des conséquences dans vos relations amoureuses ?
Dans les relations amoureuses, pas tellement finalement. Moi, c'est surtout en tant que père de famille que j'ai éprouvé ça. C'est-à-dire, vous savez que c'est ce qu'écrit Spinoza, que j'ai cité 100 fois, l'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Et je crois que c'est vrai, le plus souvent, de l'amour. Sauf que dès lors qu'on se réjouit de l'existence de quelqu'un, c'est-à-dire qu'on l'aime, bah, inévitablement, on est triste dès que ce quelqu'un-là est malheureux. Et donc, c'est vrai que j'ai eu tendance souvent à mesurer la force de mes amours, non pas la quantité de joie qu'ils m'apportaient, mais la quantité de tristesse ou d'angoisse qu'ils pouvaient m'inspirer. Mais encore une fois, davantage en tant que père qu'en tant qu'amant ou que mari, parce que j'ai assez vite compris au fond que l'essentiel de l'amour entre un homme et une femme n'était pas la passion amoureuse, c'est-à-dire en gros les premiers moments de la rencontre, mais plutôt la joie d'aimer. Non pas ce que les Grecs appelaient Eros, la passion amoureuse, le manque de l'autre, la faim dévorante de l'autre, mais ce que les Grecs appelaient Philia, qu'on traduit un peu platement par amitié, c'est-à-dire la joie que l'autre existe. Au fond, qu'est-ce que c'est qu'aimer pour Aristote, pour Spinoza? Ce n'est pas manquer de l'autre, comme le croyait Platon. Non, aimer, c'est se réjouir de l'existence de l'autre, de la présence de l'autre, de l'amour de l'autre.
Mais donc, quand une personne nous manque profondément, intensément, c'est pas le signe que nous l'aimons, forcément?
Si, si, ça peut être le signe que vous l'aimez, surtout si vous êtes amoureux. C'est la définition de l'amour selon Platon, Eros en grec. L'amour est désir et le désir est manque, écrit Platon. Et il ajoute, ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l'amour. Et voilà pourquoi il n'y a pas d'amour heureux, comme dit Louis Aragon. Parce que si vous ne désirez que ce qui vous manque, vous ne désirez que ce que vous n'avez pas, par définition. Or, qu'est-ce que c'est qu'être heureux ? Ben, être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Si bien tantôt vous désirez ce que vous n'avez pas et vous souffrez de ce manque, tantôt vous avez ce que vous ne désirez plus, puisqu'il n'y a plus de manque. Et c'est pourquoi il est difficile de passer de la passion amoureuse, le manque dévorant de l'autre, à la vie à deux, parce que l'autre qui partage votre vie et votre lit, par définition, ne vous manque plus, puisqu'il est là. Et donc, soit, ce que je dis souvent, soit vous tombez de Platon en Schopenhauer, quand il n'y a plus de manque, il ne reste que l'ennui, soit vous montez de Platon en Spinoza, quand il n'y a plus de manque, il reste la joie. Et moi qui suis plutôt porté au couple qu'à la succession des passions amoureuses, je suis le contraire d'un don Juan, je trouve merveilleux de se réjouir à deux et mutuellement de l'existence de l'autre.
Vous seriez, André Comte-Sponville, plus doué pour la pensée, hélas, que pour la vie, je vous cite. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord être doué pour la vie ?
Ben, ça veut dire être doué pour le bonheur, c'est-à-dire par exemple se réveiller le matin de bonne humeur, se lever, trouver que la vie est formidable, vivre dans une espèce de un mélange de sérénité et d'émerveillement.
Et ça c'est un don ?
Je pense que c'est un don, oui, c'est qu'il don, et je pense qu'une partie d'ailleurs vraisemblablement est d'ordre génétique ou donné à la naissance par le corps, par les gènes. Une autre partie est donnée par l'enfance. Il y a des enfances heureuses, des enfances malheureuses. Puis il y a l'entre-deux. Et puis après, une partie est donnée par la vie qu'on mène soi-même. On est aussi en partie responsable de ce qu'on devient. Voilà, mais moi je l'ai toujours constaté autour de moi. Il y a des gens plus doués pour le bonheur que d'autres, et j'adore ceux qui sont doués pour le bonheur. Ouais, c'est des gens qui sont spontanément joyeux, alors que moi, affects spontanés sont plutôt une forme de gravité, parfois de tristesse ou de mélancolie, d'autres fois d'angoisse. Voilà, mais chacun doit faire avec ce qu'il est, avec ce qu'il a, ce qu'il a reçu. C'est ce qu'écrit le philosophe Alain, chacun pousse son enfance devant soi. Mmh. Voilà, ben moi, mon enfance, elle était un peu sombre, un peu malheureuse, et je la pousse devant moi comme je peux.
Et comment faites-vous justement pour la pousser encore aujourd'hui, vous qui êtes né en 1952, André Comte-Sponville ?
En essayant d'être le plus lucide. D'abord, en essayant de comprendre, et c'est en quoi ce texte que j'ai écrit sur ma mère, qui n'était pas du tout prévu. Moi, je n'avais jamais prévu d'écrire un texte sur ma mère. Ça m'a pas un exercice à la fois de lucidité et d'honnêteté que d'expliquer pourquoi j'en étais venu à penser ce que je pensais, si vous voulez. Alors, heureusement que mon travail philosophique ne se réduit pas à cette espèce de, je ne dirais pas de thérapie, mais de confession finalement. Mais
on pense à partir de soi.
Oui, on pense à partir de soi, inévitablement, pour le meilleur et pour le pire. Et je crois, et d'ailleurs mes amis qui me connaissent bien me disent qu'en effet, ça les éclaire aussi sur mon cheminement philosophique. Et puis il y a autre chose, c'est que moi, plus ça va, au fond, plus le maître des maîtres, pour moi, c'est Montaigne. Or, les essais de Montaigne, c'est quoi ? Ben, c'est à la fois de la philosophie, de la littérature, génial dans les deux cas, mais aussi un autoportrait. C'est moi que je peins, écrit Montaigne. Et au fond, moi qui suis fasciné par ce modèle de Montaigne, et ce que j'appelle des impromptus, j'aurais pu appeler ça des essais, des essais au même sens que Montaigne. Et donc, il était légitime, là pour le coup, s'agissant de ma vie affective, d'évoquer ma mère, qui assurément est la personne qui a le plus compté dans mon existence.
Vous n'êtes donc pas doué pour la vie, mais vous êtes doué davantage pour la pensée. Est-ce que la pensée met la vie à distance ?
Bah un peu inévitablement, parce que dès lors que vous pensez vraiment, ça veut dire que vous donnez des outils abstraits, l'abstraction est forcément à distance. Vous prenez, on parlait d'amour à l'instant, le concept d'amour, c'est à distance de toutes vos histoires d'amour. On en a presque tous vécu,
et des vôtres,
vécu plusieurs, différentes, passions amoureuses, amour parental, amour amical, etc. Et quand on se forge ce concept d'amour, forcément, on a pris une distance. Et donc, on est un peu plus serein. Et la distance, de ce point de vue, est une bonne chose. L'abstraction est une bonne chose. Qu'un philosophe travaille dans l'abstraction, il ne faut pas le lui reprocher, ça fait partie de son métier, à condition que l'abstraction l'éclaire sur le vécu et n'en soit pas une protection contre le vécu. J'ai souvent dit que philosopher, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. Alors, bien sûr, il faut dire qu'on n'y arrive jamais tout à fait. Il y a toujours du non-pensé dans toute vie et du non-vécu dans toute pensée. Mais malgré tout, ça indique la direction. Voilà, donc la philosophie, c'est une espèce de chemin de détour, un détour par l'abstraction, mais pour éclairer la vie telle qu'elle est, pour essayer éventuellement de la transformer.
Ce qui compte aussi pour vous, c'est de penser juste. Qu'est-ce que ça veut dire penser juste ? Et surtout, comment savoir si oui ou non on pense juste, André Comte-Sponville ?
C'est une vraie question. Chacun en juge en fonction de son expérience, en fonction de sa sensibilité. Et quand je dis penser juste, c'est souvent par opposition à penser neuf. Quand j'ai commencé à écrire, au fond, chacun prétendait à la nouveauté, aux avant-gardes. C'était la grande époque des avant-gardes. Et moi, très vite, j'ai compris que le fait qu'une pensée soit neuve, ça ne dit rien sur sa valeur. La question est de savoir est-ce qu'elle est vraie et est-ce qu'elle est juste. Et donc, effectivement, il s'agit de penser juste, donc si possible de penser vrai, avec une part de sensibilité. Par exemple, prenons l'Ancien Testament. Il y a des gens qui adorent le Cantique des Cantiques.
Oui.
Moi, je pense que c'est du toc. Le Cantique des Cantiques, ça sonne faux pour moi. Alors c'est ma sensibilité, c'est mon expérience. Je ne dis pas que j'ai raison. L'Ecclésiaste, ça sonne sublimement vrai.
Et donc c'est le feeling qui vous permet de savoir si vous pensez juste.
Il y a une espèce de feeling spirituel, et c'est pour ça que quand j'ai lu Blaise Pascal, dont nous célébrons le quatrième centenaire depuis quelques jours, j'ai été bouleversé parce à tel point ça sonnait juste. Et à l'époque, j'étais catholique, pratiquant. Mais
On vous surnommait même Jésus à certains moments.
Oui, c'est mon meilleur ami qui était communiste, athée, m'appelait Jésus pour se moquer gentiment de moi. Mais oui, j'étais militant à la GEC, la jeunesse étudiante chrétienne, très croyant, très pieux. Mais la vérité, c'est que 4-5 ans plus tard, devenu athée, je relis les pensées de Pascal avec le même bouleversement et peut-être même une admiration encore augmentée. Alors, pour donner un exemple de sensibilité, l'un des plus courts fragments des pensées de Pascal est le suivant, en une ligne. Condition de l'homme, 2 points. Ennui, inconstance, inquiétude. Moi, quand je lis ça à 16 ans, je me dis, ben voilà, c'était exactement ça. Condition de l'homme, ennui, inconstance, inquiétude. D'autres lecteurs vont se dire, quand même, Pascal ou Comte-Sponville, quel pessimisme.
Ouais.
Ben oui, question de sensibilité. Je ne peux pas vous prouver que la condition humaine, c'est ennui, inconstance, inquiétude, mais je m'y reconnais.
Est-ce qu'il est possible de vivre sans espérer, André Comte-Sponville?
Non. Non, non, parce que comme l'a dit Spinoza, c'est peut-être la phrase du monde que j'ai citée le plus souvent, Spinoza écrit dans l'Éthique, il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. Il faut bien comprendre que la phrase est strictement vraie. Et que donc, pour ne pas espérer, il faudrait n'avoir peur de rien. Et donc c'est impossible. Dès que vous avez peur, inévitablement, vous espérez. Là encore, les parents le savent bien, notamment les pères et mères anxieux comme moi. Dès que votre gamin a 38 de fièvre, bah, vous avez peur que ça ne soit grave et vous espérez la guérison. C'est inévitable. Et donc, il ne s'agit pas du tout de ne pas espérer, de s'interdire d'espérer. C'est idiot, ça ne marche pas puisque la peur est là, l'espoir est là aussi. Il s'agit de comprendre que ce n'est pas l'espoir qui fait avancer. Par exemple, si vous espérez que l'été sera frais, et que tout ce qu'on dit sur le réchauffement climatique, c'est des âneries, bah vous êtes un climato-sceptique. Autrement dit, votre espoir ne sert à rien. Et donc la question, s'agissant du règlement climatique, n'est pas de savoir si vous espérez que ça va aller mieux. La question de savoir, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que nous faisons pour limiter ce dérèglement climatique? Ce n'est pas une question d'espoir, c'est une question de volonté.
Et d'action.
Et d'action, mais parce que la volonté agit, sinon ce n'est pas une volonté. Hein. Une volonté qui n'agit pas, ce n'est pas une volonté, c'est un espoir, c'est un projet, c'est un rêve. Et je pourrais prendre 1000 exemples. Être juste, ce n'est pas espérer le triomphe de la justice. Non, être juste, c'est agir pour la justice, et justement, si vous voulez. Voilà, et donc si j'ai critiqué l'espoir, ce n'est pas du tout pour enfoncer les gens dans la désespérance ou le désespoir du suicidaire, au contraire.
C'est pour les pousser à l'action.
Que le désir est l'unique force motrice, mais que, comme disait Aristote, mais que ce qui nous fait agir, ce n'est pas l'espoir d'un bien, c'est la volonté. Et donc, mon idée, au fond, c'est qu'il ne s'agit pas de s'interdire d'espérer, il s'agit, comme je le dis dans ce livre, d'espérer un peu moins, et surtout de connaître, d'agir et d'aimer un peu plus.
André Comte-Sponville, parfois avec votre mère, vous alliez écouter des concerts de musique classique et un soir, dans le public, vous avez senti ce qu'est la vraie gloire.
Oui, oui, donc j'avais 11-12 ans, j'imagine, c'était au théâtre des Champs-Élysées. Et vous savez, juste avant le concert, les gens s'assoient, etc. Bon, on attend que ça commence et puis à un moment, on voit que quelque chose se passe, il y a une espèce d'agitation, les gens se parlent entre eux, certains se lèvent, regardent derrière, et donc je ne comprenais pas ce qui se passe. Et puis un monsieur en smoking vient sur la scène et dit au micro, « Mesdames, messieurs, ce soir, Madame Maria Callas nous fait l'honneur de sa présence. » Et vous voyez, 60 ans plus tard, ouais. ça m'émeut encore. Et donc tout le monde se retourne et le projecteur monte au premier balcon. Une dame gantée de noir qui lève discrètement la main, c'était Maria Callas. Standing ovation. Tout le monde se lève, tout le monde applaudit. Et à l'époque, ça me surprenait un peu, parce que Maria Callas, je connaissais le nom comme tout le monde, un peu comme une people, si vous voulez, voyez. Ce n'est que des années plus tard, découvrant grâce aux enregistrements le miracle de la voix et du talent de Maria Callas, que je comprendrais ça, que 2000 mélomanes à Paris soit bouleversée simplement parce que cette femme était là. Elle n'a rien dit, elle n'a bien sûr pas chanté. D'ailleurs, c'était vraiment la fin de sa carrière. Voilà, et donc j'ai compris ce qu'est la vraie gloire, c'est-à-dire quand la simple présence de quelqu'un suffit à bouleverser une foule. Et ma mère m'a dit, il faudra que tu te souviennes que tu as vu la Callas pour de vrai.
André Comte-Sponville, vous êtes l'invité cette semaine des dieux dans tout ça. Et voici la divine Maria Callas sur la première avec « L'amour est un oiseau rebelle ».
Je préfère, il n'a rien dit, mais il...
est un oiseau rebelle, la Calas sur la première. Bon après-midi.
Et Dieu dans tout ça.
13h15, 14h le dimanche.
Sur la première.
Je n'ai pas choisi de naître ni d'être mortel, mais je ne continue à vivre que parce que je le veux bien. C'est ce qu'écrit notre invité dans son dernier livre, André Comte-Sponville. Vous signez La clé des champs et autres impromptus. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de poursuivre l'aventure de la vie jusqu'ici, vous le savez ?
D'abord parce que mes raisons de vivre l'emportent de très très loin sur les éventuelles raisons que j'aurais de mourir. Non, moi j'aime la vie, j'ai pas du tout de...
Vous dites j'aime la vie, ouais.
Ah oui, clairement. Oui. Non, j'ai pas de tendance suicidaire. Mais ce texte que vous évoquez, qui donne son titre au recueil, et qui est le premier texte du recueil, La clé des champs, c'est une expression que j'emprunte à Montaigne. Montaigne, dans un chapitre consacré au suicide, et Montaigne, quoique catholique, défend le droit au suicide. Il écrit même que la plus volontaire mort, c'est la plus belle. Il écrit notamment « Le plus beau cadeau que nature nous ait fait, c'est de nous avoir laissé la clé des champs. » La clé des champs, c'est-à-dire le